Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'est l'un des grands dossiers de la COP27 qui se déroule actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte. On parle ce soir dans le débat du jour de la compensation carbone. Alors c'est un terme, la compensation carbone, qui peut paraître barbare, pourtant qui est très concret puisque cela concerne toutes les initiatives qu'une entreprise peut financer pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre, l'exemple le plus courant étant celui de la plantation d'arbres. Alors est-ce que la compensation carbone est un vrai atout pour lutter contre le changement climatique? Voilà la question qu'on pose. Ou bien y a-t-il un risque de déplacer le problème en compensant les émissions de gaz à effet de serre plutôt que de les réduire? Comment encadrer les projets pour être sûr qu'ils soient viables? Eh bien voilà nos questions ce soir, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Antoine Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable plaidoyer France au sein de l'ONG Reclaim Finance, qui a pour ambition de mettre la finance au service du climat. Nos deux autres invités sont en ligne ce soir avec nous. Bonsoir Alain Carsenti.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et chercheur au CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement, chercheur au sein du département environnement et société du CIRAD. Notre troisième invité, Arnaud Gossement, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat spécialisé en droit de l'environnement, professeur associé à Paris 1. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce soir. Pour lancer cette émission, j'aimerais bien qu'on développe un peu plus cette définition de compensation carbone pour que ce soit vraiment clair pour tous nos auditeurs. Antoine Laurent, c'est quoi la compensation carbone? On peut donner des exemples?
Oui, il y a plusieurs solutions qui existent. C'est l'idée, en gros, de dire... J'émets tant de tonnes de CO2 d'un côté, et parce que j'ai des engagements climatiques qui doivent m'amener, en théorie, comme tout le monde doit le suivre, vers la neutralité carbone à horizon 2050, j'ai besoin de compenser mes émissions. Donc alors, il y a plusieurs solutions, mais là, ce qu'on voit dans le système financier, c'est d'acheter des crédits, et en gros d'acheter des services de captation du carbone ailleurs dans le monde, dans d'autres secteurs, pour que dans mes comptes carbone à moi, de ma propre entreprise, je puisse réduire un peu mon empreinte carbone.
Oui.
Évidemment, tout ça cache beaucoup de problèmes qu'on pourra développer.
Ça n'empêche pas l'entreprise concernée de continuer à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre dans ses projets. C'est juste qu'elle finance, c'est ça, des initiatives ailleurs.
Voilà, et c'est toute la problématique, c'est qu'il y a un risque effectivement que la compensation carbone soit perçue, parce qu'il y a avant tout un enjeu de communication derrière là en ce moment aujourd'hui, soit perçue comme un droit d'émettre du CO2. On se dit, les gens qui ne connaissent pas les enjeux, ils se disent, cool, on va pouvoir compenser les émissions. Quand je prends mon avion, c'est marqué sur mon billet, cool, neutre en carbone. Ou quand vous regardez sur la page Google, c'est marqué en bas, neutre en carbone depuis je ne sais plus quelle année. Vous vous dites, c'est bon, je suis dédouané de ma responsabilité de pollueur, il n'y a pas de problème. Sauf que la compensation, ce n'est pas aussi simple. Et surtout, c'est une solution qui est très marginale par rapport à l'effort qu'il faut faire pour réduire nos émissions et atteindre cette neutralité carbone. Je rappelle juste simplement que pour les acteurs financiers, l'ensemble de la communauté scientifique, et l'ONU l'a rappelé encore la semaine dernière, la priorité absolue aujourd'hui, c'est d'arrêter toute expansion de nouveaux projets de production d'énergie fossile, de nouveaux développements de production. Il y a très peu d'entreprises qui respectent cela, les acteurs financiers ne suivent pas, mais ils sont tous en train de brandir l'idée de la compensation carbone. Donc ça montre une certaine hypocrisie.
Et tout est dans le mot d'ailleurs, compenser.
Compenser un droit de polluer. Et or, la priorité, par exemple, un chiffre à donner, si on veut arriver à la neutralité carbone, il faudrait réduire jusqu'à 90-95% des émissions pour la plupart des grosses entreprises polluantes.
Parce que ça concerne uniquement les entreprises, la compensation carbone?
Non, ça peut concerner n'importe qui pollue, hein. Ça peut concerner des institutions, même des gens, nous-mêmes, hein, lorsqu'on prend l'avion, on peut, en contrepartie, il y a des services qui existent, acheter des crédits de compensation par ailleurs, mais il y a une certaine opacité derrière, et quand je disais qu'il faut réduire de 90% nos émissions, on voit bien qu'en fait, le GIEC le dit, il met la compensation carbone parmi les solutions climatique, mais c'est une solution vraiment du dernier kilomètre. C'est marginal par rapport à l'effort considérable qu'il faut faire pour réduire nos émissions. Donc la priorité, elle est là.
En tout cas, est-ce que des États peuvent prendre des engagements de compensation carbone, ou est-ce que ce sont uniquement des organisations non étatiques qui sont concernées par ces projets de compensation carbone?
Les États ont un rôle de régulation. Alors, ils ont leur propre consommation de carbone. Hein. L'État lui-même pollue, donc, mais bon, ça reste marginal par rapport à sa responsabilité globale. Mais l'État a ce rôle de régulation et notamment de s'assurer que les efforts de compensation, lorsqu'on achète des crédits et qu'on veut aller planter des arbres à l'autre bout du monde, on soit sûr à 100% que cette compensation ne se mette pas en concurrence avec l'agriculture, ne porte pas atteinte aux droits humains, que le carbone qui aurait été stocké dans des arbres soit bien stocké sur une très longue période. Et puis, il y a un dernier enjeu que j'ajoute avant de donner la parole aux autres. C'est que, pour beaucoup, on est en train de parler de la compensation des émissions futures. Or, on sait tous que le gros enjeu aujourd'hui, c'est le problème, c'est qu'on a déjà atteint, on est déjà quasiment au bout de notre budget carbone à l'échelle de l'industrie, à l'échelle de l'humanité. Et on ne peut pas dire j'achète des crédits carbone, ça me donne le droit d'émettre demain. Non. Nous, ce qu'on dit chez Reclaim Finance, notre position, c'est de dire OK, si vous voulez compenser, enfin, si vous voulez avoir des technologies qui captent du carbone, très bien, mais ça doit être sur la base du volontariat, sur la base de la lutte contre le changement climatique, et notamment en priorité pour capter le CO2 qui a déjà été émis, parce que c'est ce CO2 qui est parti dans l'atmosphère pendant les 150 dernières années, eh ben, il porte aujourd'hui préjudice. Et il est hors de question de simplement se contenter de capter les millions de tonnes qu'on aimerait vouloir émettre demain.
Arnaud Gaussement, vous qui êtes avocat, il y a un cadre, j'imagine, qui encadre, c'est qu'à le dire, ces projets de compensation carbone aujourd'hui. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Oui, alors rappelez que ce cadre d'ailleurs est ancien. Ce cadre est ancien, il date de la loi de 1976. Ce qu'on appelle la compensation carbone, en réalité, c'est une composante de la compensation de l'environnement. Lorsque vous allez construire un barrage, une route, une autoroute, un port, vous allez porter atteinte à l'environnement. La première obligation, c'est d'éviter les atteintes à l'environnement. Si vous n'y arrivez pas, vous devrez réduire votre atteinte à l'environnement. Et si vraiment vous n'y arrivez toujours pas, mais attention, c'est le bout du bout du bout de la chaîne, vous devrez compenser. Mais vous ne pouvez jamais compenser tant que vous n'aurez pas démontré que vous n'avez pas pu réduire ou même mieux éviter. Dans la compensation de l'environnement, vous avez la compensation carbone, c'est-à-dire la compensation de vos émissions de gaz à effet de serre. La compensation des émissions de gaz à effet de serre est une obligation. Mais c'est une obligation effectivement qui est différente selon qu'on raisonne à l'échelle d'un État, que l'on raisonne à l'échelle d'une entreprise ou même d'un particulier. Et puis, deuxième petit distinguo à faire, toujours du point de vue du droit, il faut distinguer d'une part la question de la compensation de vos émissions de gaz à effet de serre de la question de la neutralité carbone. C'est surtout ça souvent qui est critiqué. Le fait de faire une compensation environnementale, une compensation des émissions de gaz à effet de serre, lorsque c'est encadré, lorsque c'est démontré, documenté à l'échelle d'un projet, pourquoi pas? Le problème, c'est lorsqu'on en arrive à un droit à polluer, c'est-à-dire une justification d'un projet parce qu'il sera accompagné d'une solution de compensation. C'est tout l'enjeu de la neutralité carbone. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en 2021, a émis un avis très important dans lequel il dit, cette agence dit, attention, à l'échelle d'une entreprise, ça ne veut rien dire que d'atteindre la neutralité carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise ne peut jamais, à elle seule, équilibrer totalement ses émissions de gaz à effet de serre avec ses absorptions d'émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, dans les absorptions de gaz à effet de serre, pour venir en contrepoint des émissions de gaz à effet de serre, il y a deux façons de faire. Soit en comptant sur la nature, par exemple planter un champ d'arbres, vous l'avez dit tout à l'heure, soit au contraire en comptant sur des solutions techniques. Et là, on a un débat encore plus vif. Est-ce qu'il existe des solutions techniques qui permettent à une entreprise d'effacer ses émissions de gaz à effet de serre et quelque part de l'autoriser à continuer à polluer, à émettre des émissions de gaz à effet de serre. Ces solutions techniques, par exemple, c'est ce qu'on appelle la capture et la séquestration de dioxyde de carbone. Il existe des solutions, mais qui sont aujourd'hui encore assez rares, onéreuses, et qui sont elles-mêmes consommatrices d'énergie et émettrices, des solutions pour séquestrer soit dans les plateaux continentaux, en dessous de la mer, grosso modo, soit dans d'anciennes poches de gaz, ce fameux dioxyde de carbone. Le législateur est intervenu en 2021 pour dire que le principe, c'est que dans une publicité ou dans n'importe quelle autre réclame, dans une annonce, une entreprise ne peut pas dire qu'un produit ou une activité ou un service est neutre en carbone. À la suite de cet avis de l'ADEME, la position de l'État est que à l'échelle d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale, on ne peut pas être neutre en carbone. Cela étant, à la suite d'un certain lobbying devant le Parlement, ce principe a été assorti d'une exception. C'est-à-dire que le législateur a ouvert la possibilité pour une entreprise de dire « Bon, moi je pense que ce n'est pas possible, mais si vous en rapportez la preuve scientifique, technique et économique, pourquoi pas. Mais encore une fois, aujourd'hui, la neutralité carbone, elle est peut-être atteignable à l'échelle d'un État. Et d'ailleurs, la France s'est fixé cet objectif, ce qui veut dire que la France se fixe aussi pour objectif, pour atteindre cette neutralité, de compenser. Mais attention, de compenser grâce à la préservation de la nature, grâce à la préservation de la biodiversité. Mais à l'échelle d'une entreprise, pour l'instant, le droit le décourage plutôt de se prétendre neutre en carbone.
Il y a beaucoup d'esbroufe, je me permets le terme, finalement, autour de cet objectif de neutralité carbone, parce qu'aujourd'hui, le cadre juridique n'est pas encore là, pour le dire simplement.
Alors, si, il y a un cadre juridique, mais pas complètement clair, c'est-à-dire que...
Et donc, les entreprises peuvent surfer un petit peu, ou en tout cas sur des contournements pour afficher un objectif de neutralité carbone, de compensation carbone pour atteindre la neutralité carbone, mais qui finalement renvoie à cette esbroufe que j'évoquais.
Alors, c'est vrai que la ministre de l'écologie, en 2021, dans la loi climat résilience, le dit au Parlement, Barbara Pompili, l'expression neutre en carbone fleurit dans les étals de supermarchés sur toutes les étiquettes, n'importe quoi, et devient neutre en carbone, donne bonne conscience aux consommateurs. Vous aviez des voitures ou des trajets en avion neutres en carbone, alors que nécessairement, comme l'ADEME l'a dit, à l'échelle d'une activité ou d'un produit, aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est vrai que le législateur, malheureusement, contre la volonté de la ministre, a introduit une exception. Mais vous aurez remarqué peut-être que dans les commerces aujourd'hui, l'expression neutre en carbone fait beaucoup moins floresse qu'avant, malgré tout. On est beaucoup moins exposé quand même à cette expression, mais elle persiste encore, malheureusement.
Alors, je vais essayer de résumer un petit peu ce qui vient d'être dit en 10 minutes d'émission, parce que c'est assez dense, ce que vous venez de dire à Arnaud Gossement et précédemment Antoine Laurent, et ça va être l'occasion d'introduire Alain Carsenti. Finalement, l'enjeu de la compensation carbone, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et non pas de les compenser. En fait, l'idée, c'est d'abord de les réduire avant de les compenser, donc réduire les activités génératrices d'émissions de gaz à effet de serre avant de les compenser par des initiatives, planter des arbres, des choses comme ça. Alain Carsenti, on peut le dire comme ça ?
Oui, on peut le dire comme ça. On peut dire même que ça commence par éviter. Éviter, c'est se poser la question, est-ce que telle activité, tel projet, telle infrastructure, est-ce qu'elle est absolument nécessaire dans l'état actuel de la crise climatique ? Généralement, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on n'évite pas parce que généralement, vous avez derrière le chantage à l'emploi, le fait qu'il y a un certain nombre de lobbies derrière, etc. Mais c'est là que ça devrait commencer. La réduction, on peut réduire dans une certaine mesure, mais dès que ça coûte un petit peu trop cher de réduire, les gens sautent sur la compensation carbone parce que ça coûte moins cher de planter des arbres ou de conserver des forêts. En général, ce sont les deux principales activités qui sont connues, plutôt que de réduire de manière très significative les émissions dans son périmètre ou dans le périmètre de ses fournisseurs. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que on n'aura pas le choix, il faudra faire les deux, c'est-à-dire qu'il va falloir absolument réduire les émissions, éviter réduire, mais au niveau global, c'est une question d'échelle, au niveau global, il est absolument, et tous les scénarios du GIEC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental sur le climat, l'indiquent, hein, on ne pourra pas contenir le changement climatique à 1,5 degré sans ce qu'on appelle les émissions négatives. Les émissions négatives, ça peut passer par différents types de solutions, des solutions technologiques ou des solutions de type basées sur la nature, par notamment le développement des puits de carbone comme les forêts, par exemple, avec la restauration des écosystèmes forestiers ou avec la plantation d'arbres. Mais à l'échelle, et là je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, à l'échelle d'une entreprise, la question de la neutralité carbone pour une entreprise ou pour un projet est quelque chose effectivement qui ne tient pas la route parce que il y a une entreprise s'est insérée dans un réseau, dans des chaînes de valeur, dans des filières, si vous voulez, où ils ont des tas de fournisseurs, des tas de clients, et on ne peut effectivement pas savoir réellement contrôler le bilan carbone complet de l'ensemble de la complexité de ces chaînes de valeur qui s'est étendue au niveau mondial. Ce n'est qu'une fois qu'on a bouclé tous les processus au niveau global, éventuellement au niveau national, mais même au niveau national, c'est difficile, qu'on peut effectivement parler éventuellement de neutralité carbone.
La compensation carbone, d'une manière générale, elle doit s'accompagner d'engagements précis en faveur d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de la part de l'entreprise concernée. Parce que aussi, la compensation carbone, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas viable finalement sur le long terme ? Est-ce que, je vais donner deux exemples et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le potentiel d'absorption des émissions qui résulte de la reforestation des terres disponibles s'élèverait, selon plusieurs estimations, à 367 milliards de tonnes de CO2. Alors, ça parle peut-être pas comme ça beaucoup, mais c'est l'équivalent de seulement 10 ans d'émissions. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parier sur le long terme là-dessus. Et j'ai aussi lu que, selon plusieurs rapports d'ONG, il n'y a pas assez de surface sur Terre aussi, parce qu'on parle de, par exemple, replantation d'arbres, mais il n'y a pas assez de surface sur Terre pour assurer l'ensemble de la compensation carbone qui est prévue dans les plans de neutralité carbone. Est-ce que tout ça, je vous repose la question, je reviens vers vous, Alain Carsanti, ça fait dire qu'effectivement, ça doit être, vous avez dit, Arnaud Gosselin, je crois, a dit, c'est le bout du bout, c'est vraiment après les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça montre que la compensation carbone, ça doit être secondaire.
Ben, la compensation carbone, c'est... doit être secondaire, mais si vous voulez, sur les deux points, d'une part, il y a plusieurs techniques pour compenser le carbone, etc. Ce qu'on peut espérer, et on a intérêt à ce que ça fonctionne, c'est qu'avec le progrès technique, on ait quand même des solutions technologiques qui permettent de retirer, alors on a déjà, mais c'est une question là de coût qui est très important, qui permettent de retirer du CO2 de l'atmosphère à grande échelle. Pour l'instant, ça reste encore extrêmement balbutiant, c'est pas la question. Il faut espérer qu'on aura ça, parce que sinon, nous ne sommes pas du tout certains que nous serons capables, effectivement, de ce que tous les pays et tous les citoyens fassent les efforts de réduction nécessaires. Alors, pour revenir à votre question, oui, de toute façon, si on veut simplement compenser en plantant des arbres, il est très clair qu'on n'aura pas cette surface, qu'on sera très vite en concurrence avec des usages agricoles, avec des usages pastoraux, avec d'autres écosystèmes qui sont très importants pour la biodiversité qu'il faudrait convertir en plantation, et ça ne sera pas possible à accepter. L'autre problème, si vous voulez, qui est spécifique aux questions de forêt, voire d'agriculture et de sol, c'est qu'il faudrait garantir que lorsque l'on fait de la compensation carbone, il faudrait garantir que le carbone qui est stocké dans les arbres, eh bien, soit stocké pendant des siècles. Or, peut-être que pour certains projets, cela arrivera parce qu'il y a des forêts qui ont 1000 ans et plus, mais on ne peut pas aujourd'hui garantir, lorsque vous plantez des arbres, lorsque vous recréez une forêt qui va absorber du CO2, qui va stocker du CO2, qu'il n'y aura pas un incendie, qu'il n'y aura pas un certain nombre de pathologies qui vont affecter ces forêts et qui vont les détruire. Or, le CO2 qui est émis, il dure extrêmement longtemps, il va rester des siècles dans l'atmosphère. Et pendant des siècles, il va contribuer au réchauffement. Pour neutraliser ces émissions, il faudrait que, d'un autre côté, on puisse stocker pendant des siècles et le garantir d'avance. Et ça, on ne peut pas le garantir d'avance. Et d'autant moins qu'il y a de plus en plus d'incendies, qu'il y a en plus de sécheresse et que les forêts, généralement, sont en assez mauvais état au niveau mondial.
Et on ne peut pas, effectivement, miser sur du long terme en raison de ces aléas climatiques. Mais dès lors, pourquoi, Antoine Laurent, on parle autant de compensation carbone? C'est, je veux dire, un des grands sujets de la COP27 actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte, si ce n'est pas la solution, mais une des nombreuses solutions. On peut donner l'exemple de la finance, puisque vous êtes responsable plaidoyer France à l'ONG Reclaim Finance.
Bah, vous savez... Il y a une priorité absolue pour les grands pollueurs, par exemple les compagnies pétrolières et gazières. Depuis les années 70, où on est bien au courant que les émissions de CO2 via les énergies fossiles est problématique à l'échelle mondiale, l'enjeu pour eux, la priorité, c'est la procrastination. C'est vraiment de dire, OK, on a compris, on pose problème, il faut avoir des objectifs ambitieux sur le long terme, mais vous comprenez, à court terme, c'est compliqué. Et donc, cette solution de la compensation, elle est intéressante pour eux, parce que ça permet de dire... On peut ralentir notre baisse d'émissions grâce à la compensation. Mais rien ne nous garantit à nous, citoyens ou pouvoir public, ou nous, ONG de la société civile, rien ne nous garantit que dans 20 ou 30 ans, ces grandes entreprises vont vraiment respecter leurs engagements de long terme. Un exemple pour imager, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte des échelles. La société Shell, compagnie pétrolière néerlandaise, qui s'est engagée à compenser l'équivalent de 120 millions de tonnes de CO2, pour les prochaines années d'ici 2030. Ça équivaut à 3 fois la surface des Pays-Bas si on s'amusait à replanter des arbres sous cette forme-là. Et c'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois, il faut bien comprendre qu'une forêt, au-delà du fait qu'il faut qu'elle tienne pendant des dizaines d'années, parce que le pétrole qu'on a envoyé dans l'atmosphère, ça fait des millions d'années qu'il était sous terre, ces forêts, il faut éviter qu'on ait des forêts qui désinguent la biodiversité sur place. Il faut éviter la monoculture, il faut que ce soit des espèces qui résistent en plus aux effets du changement climatique qui s'aggravent. Et je reviens sur votre question de tout à l'heure sur le rôle des États. Il y a une chose très importante que nous, on surveille de très près dans le secteur financier, c'est la marchandisation de ces crédits carbone et de ces services de compensation. C'est-à-dire que la marchandisation est aussi le partage de la responsabilité entre ceux qui ont du coup, le droit de polluer grâce à ces compensations, et ceux qui se retrouvent, par la voie du marché, responsables de cette compensation. Et souvent, c'est un rapport nord-sud. Dans le nord, on a le droit de polluer, et dans le sud, en plus que d'avoir des pays qui sont très sensibles aux effets du changement climatique, on leur envoie la balle via le marché en disant, bah, comme c'est le marché, on va dire que c'est équitable. Et bah, c'est à vous de vous débrouiller pour compenser nos émissions en replantant les forêts, je ne sais où, en Afrique, en Amérique latine, etc. Et là, c'est au rôle des pouvoirs publics de faire en sorte que la nature, parce que là, on parle de solutions basées sur la nature, puisque comme le disait mon précédent interlocuteur, les solutions plus technologiques sont aujourd'hui très énergivores et difficiles à, on peut difficilement se projeter dessus. Les solutions basées sur la nature, il y a un risque énorme d'industrialisation de ce processus de compensation, de concurrence avec les filières agricoles qui nourrissent les gens quand même, et de faire un peu les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avec l'agriculture pendant ces dernières décennies, et que donc il y ait de la spéculation, et ça existe déjà, hein, vous avez déjà des crédits carbone qui s'échangent en futur, comme on dit, dans le futur, et qui sont ensuite, vous avez de la spéculation dessus, et tout ça est clairement à l'encontre de la logique de la gestion des communs, comme on dit, hein, la nature, le changement climatique, c'est un problème commun, il faut le gérer en commun, et si on commence à tout financiariser pour régler le problème, je ne suis pas certain que vraiment on s'en sorte.
Arnaud Gaussement, avocat spécialisé en droit de l'environnement, comment faire pour que justement ce qui pourrait être une bonne idée, si on l'a bien compris, c'était une solution parmi d'autres pour lutter contre le réchauffement climatique, à savoir la compensation carbone, soit une très très mauvaise idée et se retourne finalement contre les intérêts?
À mon avis, il faudrait revenir à la sagesse des auteurs de la loi de 1976, c'est-à-dire ne pas considérer le climat sans la biodiversité. À cette époque-là, on considérait l'environnement comme un tout, et quand on parlait d'éviter ou de réduire, voire de compenser les atteintes à l'environnement, on s'intéressait à l'environnement comme un tout. Et c'est vrai qu'à partir des années 90, on a commencé à parler du climat, tant mieux, mais comme si la question du climat était déconnectée du reste. Et ça a amené à des fausses bonnes idées, c'est-à-dire des idées qui apparaissaient comme étant favorables à la lutte contre le changement climatique, mais qui n'étaient pas nécessairement pour la biodiversité, et donc qui n'étaient pas de bonnes idées pour le changement climatique. Je donne un exemple, on a beaucoup parlé dans cette émission de la plantation d'arbres. Une forêt primaire, c'est un entrelacs, un réseau de relations entre les êtres vivants qui se sont élaborés sur des millions d'années, une grêle complexité que l'homme ne peut pas reproduire du jour au lendemain. Au contraire, certains champs d'arbres, nourris d'intrants, d'engrais, de pesticides, vont produire des sols pollués et des champs d'arbres qui ne sont pas des forêts, qui vont même relarguer dans l'atmosphère au premier incendie des millions de tonnes de dioxyde de carbone. Donc l'idée qui a été rappelée par les scientifiques du GIEC et de l'IPBES, c'est-à-dire les deux grandes organisations scientifiques onusiennes, l'une en matière de climat, l'autre en matière de biodiversité. Ils ont publié une note en juin 2021 pour rappeler qu'il fallait cesser de penser le climat sans la biodiversité. Vous ne pouvez pas agir sur un levier et ne pas agir sur l'autre ou sans vous inquiéter de l'autre. Donc, des solutions qui paraissent à très court terme et à première vue une bonne solution pour lutter contre le changement climatique, tiens, l'humanité émet du dioxyde de carbone, on va compenser, on va soit compenser, voire même séquestrer sous les mers, par exemple, ce dioxyde de carbone. Et ben, en réalité, on ne sait pas si c'est bon pour l'environnement, voire parfois, on sait vraiment que c'est mauvais pour cet environnement, c'est-à-dire pour le reste du vivant, qui à son tour va relarguer des émissions de CO2, sans compter d'autres risques que ceux des émissions non voulues de CO2. Par exemple, si vous séquestrez sous terre du dioxyde de carbone, on ne connaît pas encore bien aujourd'hui les interactions entre les différents éléments du vivant sous terre, dans les sols, avec ces stockages de dioxyde de carbone. Donc, il faut revenir à cette sagesse de considérer l'environnement comme un tout, sans opposer ces différents éléments. Vous savez très bien que quand vous agissez sur un élément d'écosystème, qu'une espèce protégée vient disparaître, qu'un sol vient être pollué, eh bien, il y a des conséquences en chaîne qu'on ne maîtrise pas. Il faut avoir cette humilité de se dire aujourd'hui, c'est l'environnement dans son ensemble qu'il faut protéger.
Mais concrètement, est-ce qu'on peut limiter l'influence de la compensation carbone? Et comment? Pour que justement, il n'y ait pas les désagréments que vous évoquez. Et puis surtout, est-ce que c'est possible de permettre finalement à une entreprise de procéder à une compensation carbone en plantant des arbres ou autre, si elle a atteint tel objectif, puisqu'on a bien compris que c'est la priorité, tel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre?
Alors, la première des choses d'abord, c'est je pense qu'il faut clairement et définitivement interdire l'expression neutre en carbone. D'accord. À l'échelle d'une organisation, d'une collectivité ou d'une entreprise.
Ça, c'est du greenwashing, clairement.
En tout cas, scientifiquement, il est impossible de le démontrer. Il y a un suffisamment grand nombre de personnes, dont l'ADEME, qui a pu l'affirmer. L'État lui-même a souhaité le faire. Et aujourd'hui, pour les entreprises, il faut avoir un cadre juridique clair en leur disant non, la neutralité carbone, ne vous fourvoyez pas dans cette impasse. Par contre, certaines entreprises sont obligées de faire la compensation carbone. Donc c'est vrai que je me mets à la place de ces entreprises à qui on dit vous devez dans certains cas en faire, mais en même temps, on vous reproche de le faire. Il faudrait que les États soient un peu plus précis sur ce qui est toléré, pas toléré. Il y a certains sujets, je pense à la, par exemple à la séquestration du carbone, où les États n'ont pas de position claire, fixe, unanime à l'échelle mondiale sur le CSC. Il serait peut-être temps aujourd'hui d'avoir un débat sur le CSC, qui n'est pas complètement écarté, y compris par des organisations comme le GIEC, même si, attention, le GIEC n'a pas du tout pour but d'encourager ce type de technologie, mais aujourd'hui, il n'y a pas de ligne fixe d'un État à un autre sur le CSC. Les organisations non gouvernementales y sont plutôt opposées, à mon avis, à raison, mais on peut souligner que parfois, à l'échelle, par exemple, d'une décharge, ça peut avoir un intérêt. Il faudrait qu'il y ait une position claire sur les techniques tolérées, non tolérées de CSC, mettre l'accent sur l'éviter, réduire, rappeler qu'il faut d'abord éviter, réduire, et aussi différencier la compensation carbone par la nature ou par les techniques industrielles. Mais il faudrait donner une ligne de conduite claire aux entreprises, ne pas d'un côté leur demander de le faire, ne plus leur demander de le faire. Aujourd'hui, c'est un peu le stop and go vis-à-vis des entreprises sur ces questions-là.
Alain Carsenti, économiste, je voudrais vous faire réagir à la précédente, pas la dernière, mais la précédente réponse d'Arnaud Gossemont. Il a évoqué les dangers finalement de la compensation carbone, le fait qu'on ne prenne pas assez en compte la biodiversité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas finalement à l'image d'une lutte contre le changement climatique qui ne s'inscrit pas assez, en tout cas ce sont les critiques souvent émises, pas assez dans une globalité? Et on parle environnement, écologie, on ne parle pas économie. On ne met pas ces termes ensemble.
Non, bien sûr. De toute façon, la compensation carbone a beaucoup de défauts. Mais généralement, j'interviens beaucoup là aussi sur les défauts et les limites de la compensation carbone. Mais là, je voudrais effectivement essayer de rétablir un petit peu, pas l'équilibre, mais parler notamment de la financiarisation et de la question du marché du carbone. Parce qu'il y a une question de marché du carbone. C'est un instrument économique comme un autre qui peut très bien fonctionner si les conditions sont réunies, s'il y a une forte régulation, des sanctions et autres. Ça a très bien. Alors, pendant longtemps, le marché du carbone, qui est une obligation, donc qu'est-ce que c'est que le marché du carbone? C'est qu'on distribue justement ce qu'on appelle les droits à polluer, c'est-à-dire des quotas. Et en fait, dans cette affaire, ce que font les gouvernements, c'est qu'ils imposent des contraintes, ils rationnent les émissions de CO2 pour les entreprises. Pendant très longtemps, on fait ça depuis le début des années 2000, à peu près 10 ans en Europe pour simplifier. Ça a très mal marché au début parce que les conditions n'étaient pas réunies. Ça commence à marcher. On a maintenant un prix du carbone qui s'approche ou qui a même atteint les $100 la tonne. Et on commence avec ça à avoir un signal prix qui devient tout à fait intéressant. Ça, il faut bien comprendre que ce marché du carbone, ça veut dire des quotas qui sont distribués aux entreprises ou qui sont de plus en plus non plus distribués, non plus offerts, mais que les entreprises doivent acheter sur un système d'enchères, sur un système de marché. Et ceci, c'est une contrainte très forte pour les entreprises qui les oblige véritablement à chercher des moyens d'évitement et de réduction. Donc les entreprises, elles ne peuvent pas dépasser, elles ne peuvent pas émettre plus que les quotas qu'elles achètent ou qu'on leur a donnés. Et après, elles peuvent aller acheter des crédits. Les crédits, c'est ces fameux crédits, la compensation carbone que nous évoquons, ce sont bien ces fameux crédits qui sont, eux, des systèmes volontaires où on va au-delà des obligations réglementaires qui sont données. Et de ce point de vue, c'est un petit peu moins grave d'une certaine manière. Il y a beaucoup de problèmes de communication, il y a beaucoup de greenwashing, mais il y a quand même quelques aspects qui sont positifs. Les aspects qui sont positifs, si vous voulez, c'est qu'il faut bien voir aussi que ces projets de compensation carbone apportent beaucoup de financement. Il y a des tas de très bons projets. Alors, qui ne sont peut-être pas de très bons projets pour le climat, au sens où on ne peut pas garantir que la séquestration va durer 200 ans et qu'elle est véritablement, qu'elle ne sera pas en concurrence avec l'agriculture ou autre, etc. Mais on a effectivement des très bons projets d'agroforesterie, de plantation, parce qu'il faut aussi planter des arbres, c'est absolument nécessaire, de restauration des écosystèmes, de conservation des forêts, qui peuvent être des projets qui apportent de l'argent, y compris aux communautés, etc. Donc, c'est aussi, si vous voulez, un instrument de financement tout à fait intéressant. De ce point de vue, il faut pas perdre ce point, disons, en dehors du radar. Ça fait partie également du débat.
Et il y a des avancées et des points positifs, vous le dites, et vous venez de le dire de manière très concrète dans cette compensation carbone. Mais on a bien compris que l'idée directrice, que je reformule parce que c'est déjà la fin de ce débat, c'est qu'il s'agit d'abord de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant de chercher à les compenser en finançant une initiative extérieure. Merci beaucoup Alain Carsenti, économiste et chercheur au CIRAD au sein du département environnement et société. Merci en Antoine Laurent, responsable plaidoyer France au sein de l'ONG Reclaim Finance. Et merci à Arnaud Gossman, avocat spécialisé en droit de l'environnement et professeur associé à Paris 1. Ce débat du jour est donc à présent terminé. Arnaud Delassoye et Florence Ponce à la préparation, Laurent Philippot à la réalisation. Merci à la documentation de RFI et rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. Restez à l'écoute RFI Soir.